Jacques Brière, vous êtes père abbé aux Trois Fontaines, ici à Rome. Saint Paul nous dit dans ses lettres « Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la faiblesse ». Les Trois Fontaines, c'est un haut lieu paulinien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu ?
Bien, selon une antique tradition, c'est le lieu où Saint Paul aurait été décapité. Pour dire la vérité, on n'a pas beaucoup d'informations à propos de la fin de Saint Paul. On sait qu'il a été martyrisé dans un endroit proche de la Via Ostiense et que son corps a été ensuite porté à Saint-Paul-hors-les-Murs. Et à Tréfontané, nous sommes à 5 minutes de la Via Ostiense et à pied, en une demi-heure, on rejoint Saint-Paul. Donc c'est assez vraisemblable qu'il ait pu être martyrisé dans cet endroit. Ce qu'on sait aussi à Tréfontané, c'est qu'en 298, des chrétiens ont donné leur vie au nom de la foi. C'était des soldats romains qui ont refusé de sacrifier à l'empereur et à cause de ça, ils ont été condamnés aux travaux forcés. Ce sont eux qui ont construit les thermes de Dioclétien à proximité de la gare de Termini. Et une fois ces travaux terminés, ils ont été portés à Tréfontané où ils ont été tous tués. Donc Tréfontané, c'est un endroit où il semble que beaucoup de chrétiens aient véritablement donné leur vie pour le Seigneur et manifesté jusqu'à la fin leur foi en Jésus-Christ. Ce qu'on sait, c'est que à partir du VIe siècle, il y a une présence monastique à cet endroit. Et on dit que les premiers moines présents à Tréfontané venaient de la Cilicie, c'est-à-dire de la province natale de Saint-Paul. C'est en Cilicie que se trouve la ville de Tarse. Et on a trouvé dans le monastère des restes de plaques de marbre avec des inscriptions en grec, des inscriptions en arménien. D'autre part, il y a un autre élément qui est important, c'est que notre église abbatiale est sous le patronage des saints Vincent et Anastase. Alors saint Vincent, c'est ce diacre de l'église de Saragosse qui a été martyrisé et son martyre était tellement connu dans le monde méditerranéen que de l'autre côté de la mer, saint Augustin a écrit un discours pour l'anniversaire de la mort de saint Vincent. Tandis qu'Anastase, lui, venait de Perse, c'est un moine persan qui a été martyrisé au 7e siècle et dont les restes ont été envoyés à Tréfontané. Et avec le lieu d'origine de saint Anastase, on se trouve dans la partie orientale de l'église. Et je pense que c'est pas par hasard que ces deux saints se retrouvent réunis là où on vénère la mémoire du martyr de saint Paul. Ce qu'on sait aussi, c'est que cet endroit est devenu un endroit de paludisme. Et malgré le paludisme, les moines sont restés dans cet endroit. Et quand saint Bernard a reçu ce monastère du pape Innocent II en 1140, il sait très bien que cette zone est une zone de paludisme, puisqu'il écrit une lettre aux moines de Tréfontané en leur disant de ne pas perdre leur temps à courir les différentes officines de Rome à la recherche du médicament qui permettra de les guérir. Et effectivement, ce monastère a été donné à saint Bernard à cause du service que celui-ci a rendu à l'Église en son temps. Parce que entre 1130 et 1140, il y a ici à Rome deux papes, Anaclet II et Innocent II. Et saint Bernard a été l'appui principal d'Innocent II. Il a réuni des conciles un peu partout en France, en Germanie, etc., qui ont reconnu Innocent II. Et quand Anaclet II a disparu de la scène, Innocent II a offert le monastère de Tréfontané à saint Bernard. Et saint Bernard a envoyé un groupe de moines de Clairvaux qui déjà se préparaient à faire une fondation en Italie. Saint Bernard les a envoyés à Tréfontané et le premier abbé cistercien de ce monastère de Tréfontané était un Italien, Bernardo Paganelli, et en 1145, il y a eu une élection papale et c'est Bernardo Paganelli qui a été élu pape. Et à ce moment-là, on peut penser que saint Bernard est vraiment à la cime de son influence sur l'Église, puisqu'un de ses fils spirituels a été élu pape. Tous les deux sont morts en 1153, mais avant de mourir, saint Bernard lui a dédié la dernière de ses grandes œuvres qui s'appelle le Déconsidération. Et le Déconsidération est une réflexion sur l'exercice de l'autorité dans l'Église et aussi une réflexion sur l'échec, parce que saint Bernard avait prêcher, à la demande d'Eugène III, une croisade qui avait été un échec complet. Bernard réfléchit sur le sens de l'échec chrétien. Et peut-être on rejoint saint Paul par là, parce que saint Paul, comme vous l'avez bien dit, se vante de sa faiblesse. Et pour lui, la faiblesse humaine n'est pas du tout un obstacle à la vie de foi, à l'apostolat. Au contraire, c'est dans la faiblesse humaine que la puissance de Dieu peut se déployer.
Pourquoi y a-t-il eu depuis 2000 ans tout cet afflux de pèlerins? Est-ce que c'est justement à cause de ce que vous venez de dire?
Les Tréfontanés sont un lieu de paix. Je suis frappé parce que tous les gens qui viennent au monastère vous disent « on respire un autre air chez vous ». On laisse derrière nous la ville avec toute son agitation, son bruit, etc. Et c'est un lieu de recueillement. Et quand nous, les moines, nous sommes au monastère et que nous sommes dans la clôture, vraiment on entend absolument rien de tout le mouvement, de toute l'agitation des pèlerins qui viennent à Tréfontanée. Et ces pèlerins sont très nombreux. Et je pense que c'est important de voir ce mouvement de gens qui viennent affermir leur foi à l'endroit où saint Paul a donné son dernier témoignage. Tréfontanée, c'est un lieu paulinien, mais c'est aussi un lieu cistercien. Quand vous entrez dans l'église, vous êtes frappé à la fois par la nudité, l'austérité et la beauté de ce lieu. Au point de vue architectural, il y a des proportions qui plaisent et qui vous donnent l'impression de beauté, de totalité. Je dis souvent aux gens qui viennent que dans une église cistercienne, il n'y a rien à voir. Il y a seulement à entendre et à entendre la parole de Dieu. Et tout le monastère, comme il a été conçu par saint Bernard, est vraiment un lieu où tout est fait pour favoriser l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, et aussi sa célébration dans la liturgie.
Saint Paul, comme saint Bernard, ont été de ceux qui ont laissé de l'espace intérieur à Dieu. Il me semble aussi que quelque chose qui peut les rejoindre par le haut, c'est cette phrase de saint Paul, « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Est-ce que c'est pas ça ce que viennent chercher les pèlerins?
Souvent, on voit des pèlerins qui sont motivés dans ce sens que ce sont des gens qui viennent avant d'être envoyé en mission ou de recevoir une charge pastorale ou une activité à l'intérieur de l'Église. Ils viennent là pour approfondir leur foi au contact de ce lieu.
Saint Paul, c'est l'apôtre, et les cisterciens, vous êtes plus appelés à vivre une vie qui ressemble à celle de Jésus à Nazareth. Vous dites, les gens viennent avant un envoi. Vous, en tant que cistercien, comment vous vivez ce paradoxe ?
Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit saint Paul. Mais quand on voit un peu les sens différents de cette parole, évangéliser, on voit que proclamer la gloire de Dieu, c'est évangéliser. Et je crois que cette proclamation, dans la liturgie qui est spécifique aux moines, c'est pour nous une œuvre d'évangélisation. Dans une lettre de Jean-Paul II qui s'appelle « Oriental et Lumen », on dit que la vie du moine est suspendue à la parole de Dieu. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de vivre. Pas de façon extraordinaire. J'ai été très frappé du témoignage d'un des frères de Notre-Dame de l'Atlas, un de ceux qui sont morts il y a une dizaine d'années déjà. Et lui avait demandé dans son testament que le jour de ses obsèques, on lise les lectures prévues pour ce jour-là. Parce que toute sa vie, sa nourriture, ça avait été les lectures de la liturgie du jour.
Ça fait bientôt 15 ans que vous êtes père abbé aux Trois Fontaines, ici à Rome. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On n'est pas cistercien de la même façon à Trois Fontaines que l'on peut l'être en France.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Tréfontanée? Il y a trois dimensions qui sont extrêmement importantes et qui mériteraient d'être approfondies. La première dimension, eh bien, elle est liée autour du martyre de saint Paul, c'est-à-dire autour de la naissance de l'Église primitive, le fait de se trouver à Rome et de se trouver dans un endroit important pour la tradition ecclésiale. Et c'est aussi une dimension œcuménique, parce qu'on ne peut pas se considérer, nous, moines cisterciens trappistes, comme propriétaires de Tréfontanée. C'est un lieu qui appartient à l'Église et qui appartient à l'Église indivise, avant tous les grands schismes, toutes les grandes séparations, etc. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le fait que le monastère a été donné à saint Bernard en raison du service de l'Église qui a été le sien à son époque. Et ça nous donne aussi une dimension de ce qu'est le service de la vie monastique dans l'Église. La troisième dimension, qui est plus difficile à mettre en œuvre actuellement, c'est qu'est-ce que ça signifie être moine dans la ville aujourd'hui. Notre prière pour le monde, elle est essentiellement autour de la prière des psaumes. Je crois que toute la sagesse du cœur de la vie d'un moine, c'est d'avoir cette liberté de l'esprit, enfin cette liberté du cœur qui lui permet, quand il a dans l'office un psaume qui est un psaume de lamentation, qui lui permet de crier vers Dieu avec tous les gens qui vivent des situations impossibles dans le monde d'aujourd'hui. Et que d'autre part, le moine doit avoir cette même liberté de cœur qui lui permet de louer Dieu avec tous les gens qui louent Dieu dans le monde, parce qu'il y en a quand même. Et le moine a cette liberté de crier vers Dieu avec tous ceux qui crient vers Dieu dans le monde d'aujourd'hui, et il ne manque pas. Et aussi de louer Dieu, parce qu'il y a aussi dans le monde d'aujourd'hui tant de raisons de louer Dieu et de lui rendre grâce.
Et vous vivez ainsi ce que saint Paul disait, « Je me fais tout à tous ».
Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de me trouver au cœur de l'Église.